nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, Saint Joseph est le plus grand saint après la Bienheureuse Vierge Marie. Pendant sa vie, il a été totalement inconnu, et même pendant les tout premiers siècles de l'Église, Dieu a permis que sa gloire reste cachée et ignorée de la foule. Mais depuis que l'Église s'est mise à réfléchir sur le rôle éminent que Saint Joseph a joué et joue encore dans l'œuvre de notre salut, plus ou moins depuis le Moyen-Âge, les théologiens ont mis de plus en plus en lumière les gloires de Saint Joseph. Et ils ne craignent pas d'affirmer que sa sainteté dépasse celle de tous les anges et de tous les autres saints, excepté la seule Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu. Si nous voulons mieux apprécier cette sainteté extraordinaire de Saint Joseph, nous n'avons qu'à considérer, nous aussi, quel était le rôle de Saint Joseph sur terre et maintenant dans le ciel. Donc voyons ce que Saint Joseph a été pour Jésus et Marie et ce qu'il est pour nous. Par rapport à Jésus, Saint Joseph devait remplir la fonction de père. Il exerçait une réelle autorité paternelle sur l'enfant Jésus. Comme il est dit dans l'Évangile de Saint Luc, Jésus leur était soumis, c'est-à-dire soumis à Marie et à Joseph. Et Saint Joseph avait de vrais titres, de vrais droits à exercer cette autorité. Les théologiens en donnent beaucoup, mais c'est principalement deux. C'est d'abord le titre de ce qu'on appelle accession. C'est quand quelqu'un possède quelque chose qui produit autre chose. Si on produit une bête qui fait des petits, ou un arbre qui donne des fruits, quand on possède cet arbre, les fruits sont à celui qui possède l'arbre. Saint François de Sales emploie une image, il développe une image assez gracieuse pour expliquer cela par rapport à Saint Joseph. Saint Joseph est comme un homme qui possède un jardin. Et il y a une colombe, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui laisse tomber de son bec une date dans la terre de ce jardin, qui est la Sainte Vierge. Et le palmier qui va pousser, c'est-à-dire Jésus, appartiendra à celui qui a acquis et ce champ. Et un autre titre, c'est le titre de tutelle. Quand on prend soin de quelque chose, quand on fait des dépenses pour le conserver, l'entretenir, etc., on acquiert un droit sur cette chose. Et Saint Joseph a nourri, logé, vêtu Jésus grâce au travail de ses mains. Il en résulte que Saint Joseph avait un privilège unique, inouï, le privilège d'être le représentant de Dieu le Père éternel auprès de son Fils. Dans la Sainte Trinité, seule la deuxième personne s'incarne, prend la nature humaine. Mais si Dieu le Père avait pu s'incarner, s'il avait pu venir visiblement sur cette terre, avec quel soin il aurait entouré son Fils, avec quelle sollicitude il aurait protégé? Eh bien, il a chargé Saint Joseph de le faire à sa place. Saint Joseph est en quelque sorte comme une incarnation de la bonté paternelle de Dieu le Père. Comme dit M. Ollier, le Père en lui-même aime son Fils comme son Verbe éternel, et dans Saint Joseph, il aime ce même Fils comme Verbe incarné. Et Jésus aimait en retour son Père éternel en aimant Saint Joseph. Et donc c'est Jésus lui-même qui est notre premier modèle de dévotion envers Saint Joseph. Alors maintenant, par rapport à la Sainte Vierge, qu'était Saint Joseph vis-à-vis de la Sainte Vierge? C'était son vrai époux. C'est plus qu'un protecteur, comme son ange gardien, ou un ambassadeur du ciel, comme Saint Gabriel. C'était son véritable époux. Les deux se donnaient entièrement l'un à l'autre. Chacun a donné à l'autre un droit sur son propre corps. Bossuet dit, « Ils se donnent réciproquement leur virginité, et sur cette virginité, ils se cèdent un droit mutuel. Quel droit? Le droit de se la garder l'un à l'autre. Oui, Marie a le droit de garder la virginité de Saint-Joseph, et Saint-Joseph a le droit de garder la virginité de Marie. » Et non seulement c'est un vrai mariage, mais c'est un mariage, c'est le mariage le plus parfait que tout autre, à cause du sens sublime de cette union. Aucun autre mariage n'a signifié aussi parfaitement l'union virginale du Verbe avec l'humanité dans la personne de Jésus-Christ. Ce mariage était le signe et la préparation immédiate à cette union entre la divinité et l'humanité par l'incarnation du Verbe. Et aucun autre mariage non plus n'a exprimé plus parfaitement l'union virginale et divinement féconde de Jésus avec son Église et de Dieu avec chaque âme. Et aussi, aucun mariage n'a été aussi féconde. Des mariages normal, le tout fécond peut avoir peut-être 25 enfants. Nous avons fêté Sainte Catherine de Sienne hier, c'est le dernier de 25 enfants. Mais ce mariage entre Saint Joseph et la Sainte Vierge a donné Dieu lui-même. Et puis, il était plus qu'un époux. De même qu'il tenait lieu de Dieu le Père auprès de Jésus, il tenait lieu du Saint-Esprit auprès de la Sainte Vierge. Il a été comme la manifestation visible de tout l'amour et l'affection du Saint-Esprit pour la très Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge, en retour, aimait le Saint-Esprit à travers Saint-Joseph. Elle est donc justement le deuxième modèle de notre dévotion envers Saint-Joseph. Il résulte de cette intimité que Saint-Joseph avait avec Jésus et Marie, que sa sainteté surpasse celle des anges et des autres saints. Il y a un principe de philosophie et même juste de bon sens, que plus on se rapproche d'une source d'énergie ou de chaleur ou de quelque puissance, plus on reçoit les effets. Si on est plus près du feu, on ressent plus de chaleur. Si on est plus près d'un foyer de lumière, on a plus de lumière. Et Jésus est la source de toute sainteté. Et la Sainte Vierge est la distributrice de toute grâce. Donc Saint Joseph, étant plus proche de Jésus et de Marie, a participé plus que tout autre à leur sainteté. Et par rapport à nous, qui est Saint Joseph pour nous? En fait, il est à nous ce qu'il était pour Jésus. Car nous sommes le corps mystique du Christ, de Jésus. Par le fait même que Saint Joseph a reçu de Dieu la mission de nourrir, protéger et même diriger l'enfant Jésus, il a un droit divin de pourvoir aux besoins de l'Église, de la protéger et la diriger. Quand le pape Pie IX a déclaré Saint-Joseph le patron de l'Église universelle, il n'a fait que rendre certain aux yeux des fidèles et du monde un rôle que Saint-Joseph avait toujours exercé. Il est le patron de toute l'Église et de chaque membre de l'Église en particulier. Notre confiance en son intercession doit être sans borne, et cela pour deux raisons. D'abord, son crédit auprès de la Sainte Trinité est illimité. Le Père éternel lui a confié Jésus et Marie. Il ne peut pas y avoir de témoignage de confiance plus grand à son égard. Qu'est-ce que Dieu peut lui confier de plus précieux et qu'est-ce qu'il peut lui refuser après cela? Jésus lui a reconnu une autorité paternelle. On sait que la prière d'un père auprès de son enfant est prise comme un ordre. Et puis, deuxième raison, c'est sa bonté. Qui pourrait jamais comprendre la bonté quasi infinie de celui qui a été chargé de représenter la bonté du Père éternel sur la terre? Et puis, on peut considérer aussi que Saint Joseph protège le corps mystique de Jésus encore plus qu'il n'a protégé Jésus lui-même. La Providence a voulu que Saint Joseph veille sur l'enfance de notre Seigneur. Mais il n'était plus sur cette terre quand Jésus commence sa vie publique et quand il souffre sa passion. Mais aujourd'hui, quand l'Église, le corps mystique de Jésus, subit en quelque sorte sa passion par cette terrible crise que nous traversons, Dieu nous donne la consolation de toujours avoir auprès de nous notre bon Père Saint-Joseph. Donc, demandons beaucoup à Saint-Joseph aujourd'hui, le jour de sa fête, vraiment beaucoup. Tout ce dont nous avons besoin pour nos familles, nos écoles, pour les pêcheurs, pour l'Église. Vous savez ce qu'a dit Sainte Thérèse d'Avila, elle disait qu'elle a toujours obtenu ce qu'elle a demandé à Saint-Joseph le jour de sa fête. Et n'objectez pas que vous n'êtes pas une Sainte Thérèse. C'est vrai, peut-être nous ne sommes pas aussi saints que Sainte Thérèse, mais Saint-Joseph est toujours Saint-Joseph. On demande en lui beaucoup de grâce dans cette messe et en passant toujours par sa sainte épouse, la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.